Faustine Bollard sur RTL.
Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis le Salon de l'Agriculture pour une nouvelle émission de Héros sur RTL, rtl.fr. Vous êtes également extrêmement nombreux à nous suivre en podcast. Merci pour votre fidélité. Dans Héros ce soir, je vais vous présenter un homme qui exerce un métier aussi fascinant qu'intrigant. Il est détective privé. Depuis plus de 50 ans, il traque les infidèles, les voleurs ou encore les fraudeurs. Il s'est même retrouvé au cœur d'affaires médiatiques extrêmement connues, populaires et on va dire énigmatiques. Bienvenue sur RTL tous les soirs à ce micro. Nos héros, c'est vous. Bonsoir Gérard Thomas.
Bonsoir et merci de m'avoir invité.
Il est où votre imperméable, votre appareil photo? C'est comme ça qu'on imagine un détective privé?
Tout à fait, mais j'ai un manteau invisible, j'ai tiré ça d'un film célèbre, vous ne voyez rien.
On imagine un détective privé en filature, en planque, et on a l'impression que le gros de votre activité, c'est de démasquer un mari ou une épouse volage. Est-ce que c'est le cas?
C'est vrai, mais pas que. C'était vrai il y a peut-être 50 ans ou 40 ans, mais ce n'est pas que cela que nous pratiquons maintenant. Savez-vous pourquoi les détectives s'occupent, et c'est l'image que l'on donne, pourquoi les détectives s'occupent d'adultère? Savez-vous pourquoi?
Non, parce qu'on peut se servir peut-être de cette preuve après, comme argument pour
mais
gagner un divorce ou un truc comme ça?
Vous avez tout à fait raison, mais seulement la loi a changé, parce que quand j'ai commencé il y a 50 ans, l'adultère était un délit pénal. Vous pouviez faire de la prison si vous trompiez votre mari.
Très bien.
Ou l'inverse, la parité.
Alors qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
Et non, 10 ans plus tard, dans les années 80, l'adultère n'est plus un délit pénal.
Donc vous êtes retrouvé au chômage. C'est qu'une histoire de mœurs, alors.
Non, au contraire. D'abord, les contrats, les suivis, les surveillances, les filatures sur les terres existent toujours, parce que derrière l'adultère, vous avez quand même la garde des enfants, le montant de la pension alimentaire, les indemnités compensatoires, et puis la curiosité naturelle.
C'est plutôt ça, parce que ça n'est pas, en tout cas, valable juridiquement. Les preuves que vous allez donner ne sont pas valables juridiquement.
Mais je suis content de vous contredire. Non, les avocats sont très friands de nos rapports d'adultère, parce que ça leur permet d'abord d'accélérer la procédure, parce que de mettre la pression sur l'adversaire, qui est soit le mari, soit l'épouse, en disant voilà, et puis les juges...
Ils sont sensibles à cet argument. Racontez-moi une histoire d'adultère qui vous vient comme ça en tête.
Un jour, j'ai une dame qui vient me voir, mon cabinet, qui me dit « Vous êtes monsieur Thomas ? On m'a parlé de vous. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire si mon ami couche avec sa femme ?»
Alors, déjà, c'est-à-dire que c'est la maîtresse qui lui demandait si son...
Bravo, vous raisonnez plus vite que moi, parce qu'à l'époque, il me fallait quelques secondes pour réfléchir.
Que c'est le truc à l'envers, en fait.
Est-ce que mon ami couche avec sa femme ? Et je lui dis, mais attendez, oui, elle me dit, moi je suis la maîtresse, et j'aimerais que vous prouviez que mon amant couche toujours avec son épouse. Mais je dis, mais pourquoi vous me posez cette question?
C'est drôle.
Eh bien, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble, et ça fait 5 ans qu'il me dit, je ne peux pas divorcer de ma femme, je t'aime, mais déjà, elle menace de se suicider.
Mais ne t'inquiète pas, je n'ai plus de rapport sexuel avec elle.
Voilà, c'est ce qu'il prétendait. Dixit, ma cliente. Mais surtout, il avait inventé quelque chose de bizarre. Il s'occupait de son enfant de 10 à 12 ans tous les soirs parce qu'il était en échec scolaire et qu'il devait s'occuper de l'éducation de son enfant.
Un 5 à 7 éducatif.
Voilà, vous voyez qu'il y a 30 ans, l'éducation des enfants était un peu différente de maintenant.
Mais comment on fait, Gérard? Pardon, excusez-moi, mais vous n'êtes pas non plus qu'il couche avec sa... Il a le droit de vivre avec sa femme. Comment vous pouvez prouver qu'il a des rapports sexuels encore avec sa femme?
Déjà, c'est très intéressant ce que vous dites. Nous n'intervenons jamais dans la vie des gens. Nous sommes un métier où nous devons ramener des éléments de preuve, donc observation, rapport circonstancié, de temps en temps photo, vidéo.
C'est ce que j'appelle une intervention directe dans la vie des gens, on est d'accord Gérard?
Oui, mais intervention sans que la personne le sache. En quoi il y a une intervention?
Par exemple, je vous embauche, vous prouvez que mon mari est infidèle, du coup vous êtes intervenu dans ma vie. Indirectement, mais vous êtes quand même intervenu dans ma vie.
Mais c'est très important en cas de procédure, indirectement. Vous parlez, je suis sûr, de la vie privée, le respect de la vie privée, et c'est très important dans notre métier. On ne s'introduit pas dans la vie privée des gens.
Pardon, ça me fait rire d'imaginer qu'il y a un détective privé qui me dit « je suis dans le respect de la vie privée ». Non, je ne dis pas que vous êtes un voyou du tout. Vous êtes embauché, vous faites un métier.
Ah ben, on peut être des voyous qui respectons la loi.
Alors, j'ai deux questions. Une femme vous a demandé de vous assurer que son ami n'avait plus de relations sexuelles avec sa femme. Mais moi, je voudrais savoir comment vous avez fait pour prouver que la femme, le mari, ne couchait plus avec sa femme.
Vous êtes une vraie dame et c'est vrai que vous avez tout à fait le nez fin et vous voulez savoir. Vous êtes curieuse. Eh ben, après un suivi, nous avons vérifié que tous les soirs, oui, il faut avoir un peu de chance dans ce métier, ils habitaient le premier étage, vers Neuilly, mais je ne vais pas vous donner l'adresse.
Dommage.
Ce qui fait que tous les soirs, à partir de 19h, je voyais un papa derrière son fils de 12 ans et en train de lui corriger les devoirs pendant une heure, ce qui est quand même remarquable, et ça pendant 15 jours. Déjà, c'était un point positif pour ma cliente, il n'a pas menti. Il surveille vraiment les progrès scolaires de son enfant. Et ensuite, j'ai eu l'idée de suivre le couple un dimanche. Alors, que fait un couple français un dimanche à midi ?
Bah, on partage le poulet et les frites.
Oui, mais à l'extérieur. Des fois, quand on a les moyens, on va au restaurant.
D'accord.
Donc, j'ai eu la chance de les suivre. Déjà, sur le trottoir, le père et la mère séparés de 3 mètres avec l'enfant au milieu. Au restaurant, parce que là aussi, c'est un défi.
Pour vous, ça prouve qu'ils ne couchent pas ensemble.
Non, je n'ai pas dit ça.
Alors, allez-y.
Au restaurant... Pendant une heure et demie, aucun dialogue entre le père et la mère et le fils au milieu. Vous avez déjà déjeuné avec votre conjoint et pendant une heure et demie au restaurant, vous n'avez jamais eu une conversation
avec... Non, bien sûr que non.
Donc il y a un problème. Je remets mon rapport et la dame me dit « qu'est-ce que vous en pensez ?» Bon, je dis dans ma propre réflexion, je pense qu'il ne vous a pas menti. Il a vraiment un enfant qui s'en occupe et je n'ai vu aucun échange de dialogue entre le père et l'enfant. Elle repart plutôt rassurée. Mais, et c'est pour ça que l'histoire est drôle, 3 jours plus tard, un monsieur vient me voir. Monsieur Thomas, oui, c'est moi. On m'a parlé de vous, vous êtes détective, oui, depuis 20 ans, d'accord. Je pense qu'avec ma femme, il y a quelque chose. Vous pensez que... Oui, je pense qu'elle a un amant. Vous pouvez la suivre ce soir ? C'était le monsieur, le papa que j'avais suivi pendant 15 jours. Le soir même, je suivais l'épouse. Et coup de chance, parce que dans ce métier...
Ah, c'était
avoir...
l'épouse qui était adultère.
Enfin, c'était l'épouse que j'ai trouvé...
Ça, c'est amusant. Enfin, c'est amusant. Mais non, pardon, c'est pas le mot.
C'est pas drôle.
Mais c'est cocasse comme c'est cocasse.
Et là, j'étais,
de situation. C'est à votre ville, quoi.
J'étais, bon, maintenant, on pense qu'on veut, mais j'étais quand même satisfait que ma première conclusion a été certifiée par la deuxième enquête et j'ai trouvé sa femme dans les bras d'un amant. Voilà.
D'accord. Alors, on va se retrouver dans un instant, puisque vous m'avez dit il y a quelques instants que parfois vous vous comportez comme un voyou. J'ai évidemment envie que vous me donniez un exemple. Et puis surtout, c'est quoi la différence entre un fileur, un détective ? De quelle manière vraiment, quels sont les moyens auxquels vous pouvez avoir recours pour avancer dans vos enquêtes ? On se retrouve dans un instant avec Gérard Thomas, qui est donc un vrai personnage. Depuis tout à l'heure, vous avez votre portable, vous n'avez pas arrêté de filmer. Quand vous êtes arrivé, vous filmez tout le temps.
Mais tous les jours, nous filmons. Enfin, ou photographions.
Oui, voilà. J'ai bien compris. On se retrouve dans un instant.
C'est pas dans une mauvaise intention. Hein. Vous allez tous passer dans TikTok. Hein.
C'est ça, vous êtes un TikToker. En fait, c'est un détective public. C'est quoi la différence entre enquêteur, détective privé et fileur ? Ça veut dire quoi ?
Ça s'écrit pas pareil, ça se prononce pas de la même façon. Et savez-vous quelle est la capitale de la filature en France ? Roubaix-Tourcoing, filature de coton et de tissu.
Oui. Bonne vanne, Gérard. Vous êtes fileur ? Vous êtes fileur. Ça veut dire quoi être fileur, Gérard ?
Eh bien, fileur, c'est de suivre le plus discrètement possible des personnes qui sont peut-être des menteurs, des manipulateurs, des trafiquants, des voleurs, des dealers.
Donc vous les suivez physiquement. C'est quoi la différence entre... Donc c'est pas, vous n'êtes pas enquêteur, vous êtes fileur.
Voilà, alors c'est un terme propre à notre profession. Hein. Pour faciliter, effectivement, il y a deux grandes branches dans notre métier. Le fileur et l'enquêteur, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des fileurs-enquêteurs ou des enquêteurs-fileurs, mais c'est tellement précis, c'est tellement dur comme spécialité, je n'ai jamais connu, si j'en ai connu un en 50 ans, je peux le nommer, Pierre Misraki, c'est le seul fileur-enquêteur qui était aussi fort en filature, en moto et enquêteur.
Enquêteur sur le terrain. Vous allez me raconter comment vous êtes devenu fileur, mais d'abord je vous ai posé une question. À quel moment vous avez l'impression que vous êtes comporté en voyou dans votre carrière ?
En fait,
vous avez un peu dépassé les limites.
D'abord, il faut définir ce que c'est que voyou. Oui, des fois, voilà, nous sommes tenus à la légalité, et des fois, il nous arrive d'écornifler la réalité. Je prends un exemple très simple. Savez-vous quelle est la qualité pour être fileur moto à Paris ?
Dites-moi.
Il faut être daltonien.
Parce que ne voyez pas les feux.
Il n'y a pas de feux rouges, il n'y a que des feux verts.
Oui, mais ça... Mais évidemment, c'est éminemment dangereux, mais c'est pas ce que je pensais dangereux. Se comporter en voyou. C'est
mais comment
délinquant de la route.
C'est dangereux, mais comment expliquez-vous que, au point de vue assurance, j'ai plusieurs véhicules, j'en ai 5 ou 6, j'ai le maximum de points positifs, je suis coté de la meilleure façon.
Bah, comment vous faites ? Parce que dans ce cas-là, il faut m'expliquer.
Quand on est en filature, on assume. Et quand on fait des bêtises, la dernière fois, je me suis fait arrêter par nos amis gendarmes qui m'ont dit « Mais monsieur Thomas, vous êtes peut-être détective, mais c'est pas une raison ans pour griller deux feux rouges. 2 × 4, 8 points en moins. Quand vous savez que vous avez 12 points, n'est-ce pas, pour pouvoir conduire une voiture, une moto, quand vous avez 8 points en moins, c'est votre profession. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit au chômage. Hein. Nous sommes profession libérale, on est bien d'accord.
Alors comment vous faites pour avoir tous vos
et
points?
Eh bien, on passe ce qu'on appelle des rattrapages de points.
Oui, c'est ça. Ou vous enquêtez sur la vie privée des personnes qui détiennent ce pouvoir.
Comment vous savez ça?
Vous faites une multitude de rattrapages de points.
Voilà, j'en suis à mon... Et ça va faire sourire. À mon 7e stage de récupération de points.
Vous auriez pu risquer votre vie pendant cette
filature. Je risque ma vie et je dois le dire. Alors, sachez que je suis non seulement détective, mais je suis aussi professeur, ou plutôt maître de stage auprès des 4 écoles qui délivrent le diplôme. Et donc, je dis à mes stagiaires, vous savez, la moto, c'est très dangereux. Par exemple, je tombe personnellement en moyenne une fois par an en moto. Alors, les stagiaires me disent, mais une fois par an, c'est pas beaucoup. Oui, mais ça fait 50 ans que je fais de la moto.
Alors, c'est là où on revient à l'origine, finalement, de cette passion. Vous n'êtes pas arrivé là par vocation. Oui. C'est qu'à l'origine, votre passion, c'est la moto.
Oui.
C'est ça. Et de quelle manière on passe de motard à fileur?
Eh bien, en ratant ses études de médecine. Parce que
improbable
tout à chacun,
comme réponse.
À cette époque-là, je voulais être médecin parce que je voulais aider les gens. Alors, il faut avoir un petit côté humaniste, hein, je suis désolé. J'aimais les gens et je voulais être médecin pour soigner les gens. Ben, vous savez que les étudiants, on est fauchés, on n'a pas de sous. Donc, par contre, on a du temps, on a 3 mois, 4 mois l'été à s'ennuyer. Et comme j'étais passionné de moto, je réponds à une annonce dans Moto Revue, une revue de moto.
Qu'est-ce qu'elle disait cette annonce?
Cherche motard. Alors je me dis, tiens, je vais être coursier pendant 3 mois.
Ah, et en fait, non.
Et je me présente devant monsieur Michel Forget du cabinet Forget. Je ne savais pas que monsieur Michel Forget était le plus grand détective de Paris à l'époque et ancien ex du SDEC, service de contre-espionnage français. Donc vous voyez qu'au niveau renseignement, c'était le plus fort. Et monsieur Forget, très bel homme, très courtois, très cultivé, me dit, mais monsieur Thomas, c'est pas pour être coursier. J'ai besoin de vous et de votre moto pour faire des filatures.
Vous saviez ce que ça représentait? Vous imaginiez le quotidien d'un fileur? Parce que
pas
c'est très abstrait.
Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une filature. Mais je le sais bien. Mais vous allez justement vous apprendre le métier. Vous allez tourner avec les anciens. Et pendant 3 mois, j'ai tourné avec les meilleurs fileurs du cabinet Forget.
Est-ce que vous avez aimé cette expérience?
Est-ce que ça...
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de fileur?
Quand on est jeune, qui n'a pas voulu jouer aux gendarmes et aux voleurs? Et être payé pour faire quelque chose qui vous plaît, être sur une moto toute la journée, c'était mon rêve.
On verra tout à l'heure si ça pose quand même des questions de morale et même avec votre éthique personnelle. Mais d'abord, je voudrais quand même vous demander, je rebondis sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure, il y a 4 écoles, c'est-à-dire qu'il y a un diplôme officiel de détective privé.
Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas 4 écoles, c'est 2 écoles privées et 2 universités, dont à Paris, Assas Panthéon et Nîmes, je crois, qui délivrent le diplôme de détective. Sachez que depuis 17 ans, l'État, le ministère de l'Intérieur, demande à ce que tous les détectives soient diplômés, dans un premier temps, et ensuite agréé par le ministère de l'Intérieur.
Et il y a combien de détectives privés en France, à peu près?
À peu près 900.
Vous savez les repérer, vous?
Ben non, repérer non, puisque par définition, on ne peut pas les repérer, mais il y a ce qu'on appelle la liste sur nos syndicats, parce qu'il y a aussi des syndicats.
Ah oui, tout ça est extrêmement organisé. Moi, j'imaginais quelque chose de très sous cap.
Mais c'est pour ça que je vous remercie de votre invitation. Personne en France ne sait ce que c'est qu'un détective privé. Je m'en réjouis parce que depuis 50 ans, on me demande d'être discret. Alors, je crois que c'est le résultat de ma discrétion. Personne ne nous connaît. Maintenant, je profite de mon expérience pour vous dire et dire aux Françaises et aux Français ce que c'est que le vrai métier détective. On est là pour vous aider, pour vous amener des preuves, pour vous donner des informations qui va vous faire avancer dans votre vie privée ou votre vie professionnelle.
Faustine Bollard. Vous avez reconnu évidemment le générique, Gérard Thomas. Vous avez reconnu ce générique, non?
Absolument.
Et c'est Sherlock Holmes.
Oui.
Vous êtes détective privé depuis plus de 50 ans maintenant. Est-ce qu'il y a une affaire qui continue à vous hanter aujourd'hui ou qui vous a particulièrement marqué,
oui,
Gérard?
Oui, tout à fait. C'est très regrettable. Mais voyez, si je m'en souviens maintenant. Alors, c'était il y a 40 ans, donc vous voyez, ça fait 50 ans que je suis dans le métier, mais je me souviens comme si c'était hier, malheureusement. En fait, c'est un monsieur qui vient me voir en disant « Savez-vous retrouver les gens ?» Et je dis « Oui, c'est ma spécialité. » Qui a disparu? Ma femme. Comment ça? Oui, ma femme a disparu de chez moi. Il y a 15 jours, elle est partie de chez moi, je ne sais pas où elle est. Pouvez-vous me la retrouver? Bah, écoutez, oui, c'est mon métier, je vais essayer de vous la retrouver. Rappelez-moi dans 15 jours. 15 jours plus tard, ce client me rappelle et je lui dis « Écoutez, venez voir, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. » Il vient. C'est quoi la bonne nouvelle, monsieur Thomas? Bah, écoutez, j'ai retrouvé votre femme. Ah oui, c'est une excellente nouvelle. Et c'est quoi la mauvaise nouvelle? Bah, je l'ai retrouvée chez quelqu'un. Je l'ai retrouvée chez un monsieur. Comment ça, chez un monsieur? Bah oui, elle habite chez quelqu'un, un monsieur. Un amant? Ah, ça, je sais pas. Vous m'avez demandé de la retrouver. Je l'ai retrouvée chez un monsieur. Je peux avoir l'adresse? Bah oui, vous payez pour retrouver votre femme. Je vous donne l'adresse. Que n'avais-je pas fait comme bêtise ce jour-là, puisque je m'en souviens, vous voyez, des années plus tard. 48 heures plus tard, 6 heures du matin, dring, dring. Qui vient vous réveiller chez vous à 6 heures du matin?
La police?
Non, la criminelle. Le 36 quai des Orfèvres.
Qu'est-ce qui s'était passé?
Monsieur Thomas, oui. Monsieur Intel, oui. Monsieur Intel est mon client. Et qu'est-ce qu'il vous a demandé, monsieur Intel? Ben, de retrouver sa femme. Bon, ben, suivez-nous. Mais pourquoi? Complicité de meurtre. Vous savez ce qu'il a fait, votre client, en vous quittant? Non. Il a acheté un fusil de chasse. Il a tué sa femme et l'amant. Il a dit que c'était grâce à vous. C'est comme ça que j'ai visité tristement le 36 quai des Orfèvres et que je me souviens de cette triste, lamentable histoire 40 ans plus tard. Alors la loi a changé. Et peut-être que cette affaire-là a fait jurisprudence au ministère de l'Intérieur. Mais maintenant, quand on nous demande de retrouver quelqu'un, savez-vous que nous avons l'obligation de demander l'autorisation à la personne recherchée pour donner son adresse? Savez-vous cela?
Non, mais alors, juste pour revenir, comment on vit avec ça, Gérard? Comment vous avez fait pour vous relever de ça? C'est une histoire absolument dramatique.
On vit parce que la mémoire sélectionne les souvenirs. Ben, on prend des prétextes à savoir si c'est pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et puis, je suis un peu psychologue puisque j'ai fait aussi un an de psycho à la Sorbonne, mais je ne peux pas lire dans la pensée des gens. Alors ça, c'est l'handicap des détectives. On n'arrive pas encore, mais peut-être que si j'étais... Je crois qu'il y a un métier physionomiste, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Mentaliste.
Mentaliste.
Est-ce que vous avez d'autres missions que vous avez regrettées, même si le mot est faible? Lesquelles?
Oh, bah souvent, j'ai pris des voleurs en flagrant délit. Mais bon, après, je dis au patron, parce que les employés volaient leur patron. Et je dis, bon, bah voilà, je pense qu'avec nos rapports, avec les preuves... Et le patron me dit, non, je les connais, ils me volent parce qu'ils ont une famille à nourrir. Grâce à votre rapport, je ne vais pas les mettre dehors.
Alors, votre action autour des entreprises, on va revenir avec vous. Mais d'abord, parlez-moi de l'affaire Boutboul. Pourquoi celle-ci est une affaire que vous avez regrettée?
Pour moi, comme vous dites, cette affaire ne s'appelait pas comme ça. L'affaire s'appelait l'affaire Cheval. Parce que sachez qu'on ne donne jamais le nom des gens, on donne toujours un surnom.
Juste, cette affaire que les auditeurs d'RTL connaissent bien, puisque Dari Boutboul est une sociétaire historique des grosses têtes. Pourquoi cette affaire vous a autant marqué?
Ça m'a marqué parce que d'abord, j'étais fier d'avoir été choisi parmi tous les détectives de Paris pour suivre Maître Perrault, avocat célèbre de l'époque. Nous avons rempli la mission, qui était une mission d'adultère classique. Pour moi, c'était le béaba du métier. Si ce n'est que 15 jours plus tard, j'apprenais dans les journaux que ma cible se fait assassiner par un tueur à gages. Qui lui-même se fait assassiner un an plus tard par un deuxième tueur à gages, etc.
Bref, vous connaissez... Ce tueur s'était servi de vos informations pour assassiner cet homme, c'est ça?
La cliente, oui, la cliente. C'est la cliente qui s'est... On suppose, après il faut demander à nos amis de la police ce qu'il en est. Mais nous avons supposé, c'est que à cause de mes rapports, ils ont mis au point l'horaire, le minutage et l'endroit précis où Maître Perrault a été malheureusement...
assassiné. Vous avez été interrogé par la police dans cette affaire?
Naturellement, non seulement j'étais interrogé, mais ils sont venus chez moi à 6h du matin.
Ça vous hante, ces affaires-là?
Oui.
Parce que je vois bien que vous changez immédiatement de ton, au-delà du fond de ce que vous me racontez.
Moi, je fais un travail... Bon, d'abord, c'était un travail de ludique. Hein. Je vous ai expliqué, j'étais étudiant, j'avais 20 ans. Je ne m'attendais pas à ce que ça se termine par des morts. On ne devient pas détective pour que des gens... après, on me dit, c'est votre faute. Non, moi, je fais un travail. Après, si on profite de mon travail... Vous savez, c'est comme je prends comme exemple un marchand de couteaux. Vous voyez, moi, je fabrique des preuves, je fournis des informations. Maintenant, si des gens malhonnêtes, mal intentionnés, immoraux prennent mes informations pour faire du mal.
J'entends.
Oui, non, mais je suis responsable, j'assume, mais voilà.
Gérard Thomas, vous êtes détective privé depuis 50 ans. Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler pour des clients prestigieux? Des politiques, par exemple?
Absolument.
Et est-ce qu'au moment des périodes d'élection, on vous appelle peut-être pour dénigrer le candidat adverse? Ça vous arrive, ça?
Oui, c'est arrivé, mais nous n'avons jamais accepté, parce qu'une époque, c'était tous les 7 ans qu'on nous demandait de rendre service, de surveiller les affiches électoraux. Après, c'est tous les 5 ans. Mais j'ai toujours refusé de faire de la politique, et je m'en réjouis, puisque... apparemment, nos présidents changent plus souvent que de détectives.
Est-ce que vous avez suivi des personnalités du showbiz?
Oui.
C'est dommage, j'avais envie que vous me disiez des noms, mais je sais que vous ne me donnerez pas.
Non,
mais toujours dans des cas d'adultère ou pour d'autres raisons?
Non. Certains étaient en danger, d'autres se sentaient suivis.
En danger de quoi?
Ils pensaient que vous savez, quand les gens sont connus publiquement, ça crée des jalousies. Hein, il y a des gens qui veulent du mal. Donc ils voulaient vérifier s'ils n'étaient pas en danger.
C'est-à-dire qu'on peut vous demander de vérifier si vous n'êtes pas suivi vous-même?
Tout à fait, ça s'appelle la contre-filature. C'est une spécialité. Et même à une époque, je vais vous dire, à l'époque, j'avais l'autorisation, plus maintenant, d'être non seulement détective, mais garde du corps. Donc j'étais directeur d'une société de garde du corps, bodyguard, voilà,
par
les Français, bodyguards. J'étais directeur pendant 15 ans d'une société de bodyguard. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'avais trouvé une correspondance entre la filature surveillance et le bodyguard, qui était la protection de la personne, mais d'une façon rapprochée. Et nous créons le deuxième...
cercle de protection, cercle, pour vous assurer que personne ne s'en rapproche.
Voilà. Je regrette que nous n'ayons plus maintenant l'autorisation de faire les deux métiers.
Est-ce que vous avez suivi des personnalités internationales ou travaillé pour elles?
Oui, j'ai travaillé pour des présidents, j'ai travaillé pour des ministres, j'ai travaillé pour des princes...
Racontez-moi, un prince arabe, c'est ça?
Ce prince me demandait de suivre la princesse à Marbella pendant un mois. Sous prétexte que la princesse pouvait sortir avec un joueur de tennis célèbre de l'époque qui s'appelait John Borg. Voilà. Les anciens se souviennent peut-être, ou
les anciens et les plus jeunes, moi je me souviens très bien. Je suis très jeune, bien sûr. Donc John Borg, voilà à Marbella.
Déjà, j'appelle mon directeur, qui était le fameux Madame Barré, Monsieur Barré, du fameux cabinet du Luc. Et donc j'appelle Monsieur Barré, je dis, mais comment je vais reconnaître la princesse à Marbella? Vous inquiétez pas, un yacht de 30 mètres, ça bouge tout le port. Alors j'ai pu trouver le yacht. Mais maintenant, il y a 4 Mercedes noires sur le quai, elle est dans quelle Mercedes? Elle a les 4 Mercedes, elle sera dans la première, les autres c'est les gardes du corps.
Et moi, c'est compliqué ça quand il y a des gardes
du corps. Surtout j'avais loué une voiture de location rouge, et donc je devais suivre les 4 Mercedes avec ma voiture de location rouge.
Super discret.
Voilà, alors plutôt que les suivre, je les ai devancés, et ils n'ont jamais regardé devant qui les suivait.
Devant, c'est pas bête ça.
Ah oui, mais ça c'est une technique réservée à l'agence à bac détective, je me réserve le brevet.
D'accord, vous avez pu la suivre cette femme finalement?
Absolument.
Est-ce qu'elle avait une relation avec John Borg?
Vous voulez que je raconte la fin alors?
Évidemment.
Tout de suite, voilà. Eh ben oui, parce qu'à un moment, au bout de quelques semaines, je vois partir les gardes du corps. Oui, parce qu'elle prenait effectivement des cours de tennis, mais là où s'était trompé le client, c'était pas, elle prenait pas des cours avec John Borg, elle participait au club John Borg, et elle avait un joueur de tennis qui s'appelait pas John Borg. Mais il était jeune et beau et sportif, et un jour je vois partir les gardes du corps, les 3 voitures. Et après je vois la princesse partir toute seule dans sa voiture, et 5 minutes plus tard, le professeur part aussi dans sa voiture. Que ferez-vous à ma place?
Je prends des photos.
Non, je les suis d'abord.
Ah oui, bien sûr,
ah oui,
pardon.
Je les suis, mais ils vont où? Et ils m'amènent dans les hauteurs de Marbella, je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle Andalusia derrière, ils m'amènent dans une forêt sombre, à souhait, et vous voyez le jeune Thomas, le jeune détective, à plat ventre avec son appareil 300 mm, et là j'ai pu faire les photos qu'il fallait.
Prouver. Donc en fait, elle n'avait pas une histoire avec John Borg, mais elle avait une histoire avec son professeur de tennis.
Absolument.
Très bien. Et vous savez ce qui est arrivé à cette princesse après
cette
découverte?
Non. Alors c'est ça, une frustration dans ce métier, c'est que on a rarement le retour.
Alors ça coûte combien? Moi je suis, alors pas une entreprise, hein. Moi je suis une particulière. Je peux vous vérifier telle ou telle chose.
Oui.
Ça va dépendre de quoi? De la longueur de la mission.
Mais vous avez tout à fait raison. Alors il y a mission et mission. Alors il y a des missions on peut chiffrer d'avance. Ce qu'on appelle une enquête, voyez, vous demandez par exemple de retrouver quelqu'un, bon, elle a fait tellement, c'est tellement le béaba du métier que je peux vous le dire, hein. Voilà, c'est aux environs de 1000 euros hors taxe.
Retrouver quelqu'un,
et c'est gratuit. Alors c'est ça aussi l'avantage de notre agence, ça va être DTF, c'est gratuit si on ne réussit pas. Alors que notre métier, il y a quand même une phrase célèbre, nous sommes tenus à mettre les moyens, mais non pas au résultat, en tant que profession libérale. Mais l'agence ABAC tient à ne pas demander d'honoraires si nous ne réussissons pas la mission, pour les enquêtes.
Alors, 1000 euros, donc ça, 1000 euros pour retrouver quelqu'un, et ça peut monter pour un particulier jusqu'à combien et pour quelle raison? Pour quel genre d'enquête ça coûte le plus cher?
Alors, enquête qui est aussi une filature, bien sûr.
Oui, une filature, bien sûr.
Vous pensez bien que pour revenir à la précédente mission, un mois à Marbella, comptez à peu près entre 1000 et 2000 euros par jour.
Ça dépend. Oui,
mais ça dépend si nous travaillons 4 heures ou si nous travaillons 15 heures par jour. Là, c'était des missions de 15 heures par jour. Comptez 2000 euros par jour, vous multipliez.
Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc c'est
quand même quelque chose d'important, et je dois le dire pour nos auditeurs. Savez-vous ce que veut dire l'expression des avocats ? L'adversaire est condamné à payer aux dépens. Connaissez-vous l'expression ?
Non, ça veut dire que c'est pris en charge.
Voilà, c'est le juge qui décide, mais l'avocat du client peut demander, disant, monsieur le juge, vous voyez, mon client ou ma cliente a été obligé d'engager un cabinet détective qui est apparemment à pignon sur rue, hein, voilà, qui est agréé par le ministère de l'Intérieur. Voici sa facture, 10 000, 20 000, 30 000, peu importe. Nous demandons, puisque l'adversaire ment sur ses prétentions, et grâce aux preuves et aux rapports de ce cabinet, nous demandons...
La prise en charge des frais de détective.
Absolument.
D'accord.
Et ça, c'est très important. Alors, on ne dit pas que nous sommes remboursés par la Sécurité sociale.
Ça serait mais on peut avoir une aide.
Vu le trou de la Sécurité sociale, nous sommes quand même participants. Mais sachez que vous pouvez demander au juge le remboursement, que l'adversaire soit condamné à payer aux dépens.
Héros. Quelles sont les missions que vous confient ces sociétés qui font appel à vous ?
Tous les problèmes inhérents aux entreprises, c'est-à-dire vol, coulage, escroquerie, concurrence déloyale, captation de clientèle, contrefaçon, et maintenant, et c'est d'actualité, absentéisme frauduleux.
Donnez-moi des exemples concrets de personnes que vous avez pu suivre dans des et qui vous vous en souvenez pour une bonne ou une mauvaise raison.
Un jour, un directeur d'une société de SC2I me dit « Nos ingénieurs ont des chantiers chez nos clients. Et j'ai un excellent ingénieur, très compétent, mais depuis quelques jours, les clients se plaignent de lui, il arrive... un peu débraillé le matin, il a du mal à parler. Et j'aimerais bien que vous fassiez une petite enquête pour savoir pourquoi cet ingénieur qui était très professionnel chez nous a dérivé de cette façon. Donc nous avons fait une enquête précise. Alors pour ça, je fais appel à des enquêteurs, hein. Je fais pas appel à des fileurs. Et mes correspondants enquêteurs me disent, vous savez pourquoi il arrive dans tel état chez les clients ? Toute la nuit, il boit. Il boit environ entre 10 et 15 bouteilles de vin. Et avant de partir au travail, il boit ses 3 litres d'eau salée pour pouvoir vomir.
Et est-ce que cet employeur s'en est servi contre son salarié ?
C'est ce que j'ai dit à l'employeur. J'ai dit, je crois qu'avec nos rapports, vous allez peut-être pas le garder. Et le directeur me dit, mais vous savez pourquoi il boit ? Oui, nous avons complété l'enquête, nous avons été jusqu'au bout. Il a eu un problème de sentiment, sa petite copine l'a quitté, et plutôt que de se mettre une balle dans la tête, il a préféré boire. Donc vous voyez dans quel état il peut arriver le matin, voir les clients. Et je pense que vous allez renvoyer votre ingénieur. Et là, le directeur, et ça me touche beaucoup, me dit, monsieur Thomas, je ne vous ai pas tout dit. Ah bon, qu'est-ce que vous avez oublié ? Qu'est-ce que vous avez omis de me dire ? Cet ingénieur, c'est mon meilleur ami. Donc, grâce à vos renseignements, je vais pouvoir le soigner. Voilà.
Vous êtes ému, Gérard ?
Oui, parce qu'on travaille dans l'affect, quand même. Et je raconte des histoires peut-être cocasses, mais des fois, c'est tragique. Et je suis des fois ému, oui. Excusez-moi.
Vous avez d'autres histoires qui vous ont ému, comme ça ?
Oui, j'en ai beaucoup, oui.
Vous en avez une autre en tête, là ?
Celle qui me touche le plus. Un jour, quelqu'un sonne à mon bureau et j'ouvre la porte et... je vois une jeune fille qui me dit « Monsieur Thomas, on m'a dit que vous savez retrouver les gens. » Et je lui dis « Oui, c'est mon métier. Pouvez-vous retrouver mon père ?»« Comment ça, votre père vous habitez où, madame, mademoiselle ?»« J'habite chez maman. » »« Et pourquoi vous ne demandez pas à votre mère où est votre père ?»« Ah non, mais elle m'engueule, elle crie, elle ne veut pas parler de mon papa, elle se fâche. »« Donc je voudrais que vous m'aidiez, je voudrais retrouver mon papa. »« Mais quel âge avez-vous ?»« J'ai 17 ans. » « Ah ben, je ne peux pas. Vous êtes mineur, vous habitez chez maman, elle ne veut pas qu'on parle de votre papa. Je ne peux pas m'occuper de votre question. Mais si j'avais 18 ans, si j'étais majeur ?»« Ah ben, si vous êtes majeur, c'est autre chose. » Et elle s'en va, triste, dépitée, et puis moi, je passe à autre chose. Et les mois passent, les nuages passent, les missions passent, l'eau coule sous les ponts, et quelques mois plus tard, ça sonne à ma porte. J'ouvre la porte, et c'est la même jeune fille qui avait grandi d'un centimètre ou deux. Elle me dit, vous me reconnaissez, M. Thomas ? Je dis, ah oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 18 ans. Excusez-moi.
Elle vous a demandé de retrouver son père.
Pouvez-vous prendre mon affaire ? J'ai dit, bien sûr, vous avez 18 ans, je vais prendre votre. On a mis 15 jours pour retrouver son papa. Elle m'a téléphoné après. Ils sont tenus dans les bras. Ils ont sauté dans les bras d'un autre.
Vous avez un cœur tendre. J'allais dire finalement, mais non. Vous avez un cœur tendre.
Ouais,
et est-ce que ces retrouvailles-là justifient parfois dans votre cœur ou dans votre conscience certaines enquêtes de moralité que vous réalisez ?
Je fais ce métier, vous savez, c'est pas que pour l'argent. Je soucie pour, bon, évidemment, il faut l'alimentaire. Charles Combe dirait pas alimentaire, il dirait élémentaire en Shawatson. Moi, je dis alimentaire en Shawatson. Déjà, c'est pour ça. Mais c'est parce que on aime les gens, on aime rendre service, on aime l'humanité.
Gérard Thomas est avec nous ce soir. Il vous arrive d'échouer, de pas réussir à mener,
mais oui,
d'aller jusqu'au bout de cette filature.
Et contrairement à ce que vous pouvez penser, je suis très fier d'échouer à certaines missions.
Pour quelles raisons?
Eh ben, d'ailleurs, c'est ce que je dis à mes stagiaires, parce que je vous l'ai dit, hein, je suis aussi maître de stage, donc j'ai tous les ans, j'ai des étudiants, et je dois essayer de leur apprendre le métier, et je leur dis, mais à chaque fois, ce que vous pensez être un échec n'est pas un échec. Vous êtes en train d'apprendre. Voilà. Et oui, je sais. Heureusement qu'il m'arrive de pas arriver. Alors, je vous l'explique, hein, parce que ce qu'il faut, c'est aussi savoir pourquoi vous n'y arrivez pas. Bon, sachez que nous sommes respectueux de la loi. Le ministère de l'Intérieur, dont nous sommes dépendants, nous sommes agréés par eux, nous avons l'agrément, nous oblige à respecter la loi. Donc nous ne pouvons pas, par exemple, mettre des gadgets électroniques pour avoir des réponses à cette question. Nous ne pouvons pas hacker les ordinateurs des concurrents pour connaître le fichier client.
Ah oui, donc vous avez des limites à un moment.
Voilà, ça s'appelle la légalité, ça s'appelle la déontologie. D'autres appellent ça l'éthique, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est une obligation si vous voulez être détective et si vous voulez surtout perdurer dans le métier de détective. Moi, j'ai plein de confrères qui ne sont plus là au bout de 3-4 ans.
Parce qu'ils ont été trop loin. Est-ce qu'on vous a déjà cassé la figure ?
Oui, mais malheureusement, je n'ai pas couru assez vite.
Dans quelles circonstances ? Un mari, ou une femme,
voilà,
volage ?
Dieu merci, c'était des affaires plutôt...
Privées ?
Non, parce que on a suivi aussi des dealers, des trafiquants. Et là, c'est vous savez ce que c'est, les tombées de camions. Voilà, il y a des voleurs. Il vaut mieux pas qu'ils vous trouvent, parce que là, ça peut être plus dangereux. Mais là, c'était une affaire sentimentale. Je préfère appeler ça une affaire sentimentale plutôt qu'une affaire
d'adultère. Hein.
Bon, bah, l'amant était vexé que j'ose le prendre en photo. Donc, il a essayé de me prendre mon appareil photo. Moi, j'ai défendu mon bien. Et mon épaule s'est sortie de l'endroit où je mettais d'habitude l'épaule. Donc je me suis retrouvé à l'hôpital.
Mais est-ce que, alors là j'ai bien compris, vous avez été frappé, mais parfois il y en a pas qui essaient de négocier avec vous, genre ce que vous avez vu,
vous
tout le gardez
à fait.
Pour vous.
Oui, plusieurs fois. Et donc j'ai une anecdote assez drôle. J'en suis pas fier, mais c'est drôle. Donc je vais la raconter, ce que je raconte à mes étudiants. D'habitude, nous travaillons en moto, puisque je vous ai dit, nous étions notre expertise, c'est la filature moto. Et un jour, ma moto, je l'avais mis en révision, donc je prends une voiture. Je suis le monsieur qui, bon, tout marche bien, et j'ai trouvé, effectivement, avec qui il sortait, puisqu'il était marié, avec quelle personne il fréquentait dans l'après-midi, pendant une heure ou deux, et ensuite il a regagné son lieu de travail, je le suis, et là je me pose en voiture. Je commence à rédiger mon rapport dans la voiture et j'entends toc toc. Quelqu'un frappait à ma vitre de gauche. C'était ma cible, le monsieur, qui vient me voir en disant « Excusez-moi, je sais pour qui vous travaillez. Tenez, voilà un billet de 500, vous dites rien à ma femme, d'accord ?» Moi, je dis « Ok, voilà. » Et puis, il s'en va, rassuré. Dès qu'il s'est éloigné, moi aussi, je m'éloigne. Et puis, j'appelle ma cliente et je lui dis « Votre mari vient de me donner un billet de 500. Qu'est-ce que j'en fais, madame ? »
Et elle a dit quoi ?
Elle a souri au téléphone. Elle m'a dit « Écoutez, monsieur Thomas, je vous remercie d'abord de votre honnêteté. Gardez ce billet. Mais ce soir, je vais parler à mon mari. Je vais lui dire quelque chose. » Voilà, je ne connais pas la suite.
Ah, ça doit être tellement frustrant de ne pas connaître la suite.
Il n'y a pas que des féminicides. Il y a peut-être aussi des masculicides, si le terme existe.
Est-ce que vous-même, vous avez déjà été filé ?
Alors, chose curieuse...
Contre-filé.
Alors, non, mais c'est ça. Alors, chose curieuse, et j'espère que ma femme m'écoute, là, je ne regarde jamais, alors que je suis des gens depuis pas mal d'années, je ne regarde jamais dans mes rétroviseurs pour voir si je suis filé. Chérie, je n'ai rien à me reprocher.
Voilà, c'est ça, finalement, c'est ça la conclusion.
C'est
pour
ne
pas être filé, il ne faut avoir rien à se reprocher. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Gérard.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.
D'avoir éclairé mon métier, parce que c'est un métier extraordinaire, mais peu de Français et de Françaises le connaissent.
Voilà qui est rectifié sur RTL. Merci beaucoup, Gérard.